would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you.
I feel good sur RCN. Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good, 30 minutes d'habitude, là ça peut être un petit peu plus long cette fois-ci parce que I Feel Good, c'est le partage avec deux invités cette semaine, c'est Stéphane et Laurent qui sont dans le village de l'insertion à Nancy, ils vont nous raconter leur aventure de vie, leur aventure artistique. Stéphane et Laurent, accompagnés de Michel et Valérie, soyez les bienvenus pour I Feel Good.
So good, so good.
Pas de problème, mon cher Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Bonjour Valérie et bonjour, bonjour Michel qui est accompagné.
Bonjour.
On va passer un petit peu de temps ensemble parce qu'effectivement, comme tu me le soufflais Stéphane, toi tu es logement d'abord et Laurent est au village de l'insertion.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est que ça le village de l'insertion Laurent ?
Au départ ça s'appelait le village de l'insertion donc, ouais. Ça a été rebaptisé le village sans prétention par les habitants en référence à Georges Brassens et c'est un logement où il y a 11 AGECO, les maisons de chantier là. Et deux caravanes. Donc il y a 13 habitants en tout, plus les intervenants sociaux et les gardiens de sécurité. Ça fait qu'on est en tout, on est 15, 16 dans ce village.
Alors ça se trouve où ce village ?
Rue du Crône.
À Nancy.
À Nancy, voilà.
Il rassemble qui ?
Alors il y a, des galeries, beaucoup de personnages, comme Tonton par exemple, le doyen du village. Momo, Vivi, Rachid, Emric, on est 13 en tout à vivre dans ce village.
Et toi Stéphane, c'est le logement d'abord, pourquoi, c'est quoi la différence ?
Ben j'ai mon propre appartement.
Donc toi t'es pas dans le village ?
Non, mais c'est une bretelle du logement, du village d'abord. C'est une bretelle, il y a le village d'abord et hein, le logement d'abord.
Le village d'abord.
On commence par le village et après on peut aller dans un logement, c'est ça un peu le parcours?
Non,
aussi
non,
pas forcément.
Non, c'est tout dépend de la personnalité, si elle est capable de se démerder, de se débrouiller tout seul.
Bien à la radio, bien le correctif, super.
De se débrouiller tout seul et il nous trouve un appartement et c'est à nous de faire nos preuves quoi.
Faire des preuves par rapport à quoi et pourquoi ?
Payer son loyer normalement, être courtois avec les voisins, pas de musique, pas de bruit.
C'est génial la radio. Hein, c'est super, super pédagogique la radio, c'est super. Et tu y es bien Stéphane ?
Ouais, oui.
Parce que t'as pas toujours été dans un logement ?
Non, j'étais en squat chez des copines. Mais c'est bien d'avoir la clé de chez soi.
Ça change quoi ?
Bon, au moins, c'est toi qui ouvres ta porte. Parce qu'avant, comme j'ai fait des séjours en prison, on m'ouvrait les portes. Et ça, j'avais perdu l'habitude. Je sais que la première fois que quand j'ai eu mon appartement... j'ai eu un bug de 5 secondes. J'ai attendu devant la porte et comme un couillon, je me suis dit mais j'ai les clés. Et j'ai ouvert mon appartement. Parce que pour moi, j'attendais le surveillant qui vient de m'ouvrir quoi.
Et ça reste quand tu ouvres la porte, quand tu rentres la clé, ça reste encore aujourd'hui. Tu en parles.
Un an, puis maintenant, quand même. Sinon, là, je serais touché. Là. Ça m'arrive une fois.
T'es guéri, là.
Laurent.
Oui.
Toi, c'est arrivé au village sans prétention. Alors,
oui.
Ça vient d'où ?
J'étais au foyer Le Mire, avant, à la Baie Le Mire.
Rue de la Baie Le Mire.
Et on m'a proposé de venir dans ce village, dans une caravane. Et ça m'a tout de suite plu, parce que étant jeune, j'ai vécu 10 ans en caravane.
D'accord.
Avec mes parents, enfin mon beau-père et ma mère. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, et puis ça me convient, j'ai pas de loyer à payer, pas de facture EDF, j'ai rien, j'ai pas de responsabilité, donc tout va bien, je vis bien.
Et t'as envie d'en avoir des responsabilités ?
Pardon ?
Tu as envie d'en avoir des responsabilités ?
Bah, j'en ai déjà avec une fille, j'ai une fille, c'est beaucoup de responsabilités, mais pas plus que ça, non, je vis bien, comme ça.
Stéphane et Laurent, comme tout le monde, vous avez, comme tous les invités à l'émission, vous avez eu droit à cette question des trois dates importantes dans votre vie. Stéphane, tu nous partages la première, 1982, pour qu'on fasse un peu plus connaissance ensemble.
Bah, c'est le jour de mon adoption. J'ai été abandonné dès la naissance. Et j'ai grandi par les chères sœurs.
Tu as été adopté, tu avais quel âge ?
8 ans.
D'accord.
Et pendant de 0 à 8 ans, c'est les bonnes sœurs qui m'ont élevé. Il faudrait revoir la manière.
Comment ça s'est passé ?
Très mal. Très très mal. J'ai gardé les cicatrices jusqu'à plus de 25 ans dans le dos.
Ouais.
On nous mettait assis sur des règles en carré dès qu'on faisait une petite boulette. On était des enfants, donc c'était pas des grosses boulettes, hein. C'était des conneries d'enfants, quoi.
Et donc 1982, c'est là où... Mes parents
sont venus me chercher. Parce que j'étais parti pour chercher une petite fille. Mais la seule petite fille qu'il y avait, il y avait le petit frère derrière. Et mes parents, la bonne chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils n'ont pas voulu séparer le petit frère.
De la petite sœur.
De la petite sœur, de la grande sœur, parce que c'est ma grande sœur.
D'accord.
Donc ils nous ont pris les deux.
Oh, ouais. Hein.
Que sinon, je serais pas ce que je serais devenu, mais...
Pourquoi ?
Parce que à 8 ans, je savais pas lire, je savais pas écrire. Double strabisme. Tu me mettais une claque dans le dos, je saignais du nez. Façon de parler, mais je tenais pas debout. Ouais, j'étais rachitique, sous-alimenté.
Et donc, cette adoption, ça a changé ta vie ?
Ah oui.
Pourquoi ?
Bah, je prenais plus de coups. Je mangeais bien, je mangeais à ma faim. Mes parents ont eu du mal sur certaines choses parce que tous les soirs, je faisais le tour de la maison pour voir si les portes elles étaient bien fermées.
Ah, les portes, et dis donc, dans ta vie, c'est important, ça.
Bah ouais, ouais. Mais pourquoi je faisais le tour des portes pour qu'elles soient fermées, je ouais. sais pas. Surtout à l'âge de 8 ans. Quoi.
Ouais.
Ça doit être un séquel, mais lequel ?
Ta sœur, elle, ça c'était bien passé aussi pour elle, l'adoption ?
Bah oui, elle était plus grande. Bah, elle a pris cher aussi par les bonnes sœurs. Mais comme elle était un peu plus grande, elle était un peu plus démerde.
Et cette aventure-là, elle s'est arrêtée de l'adoption avec tes parents. Vous avez gardé un lien, vous êtes...
Ben non, ils sont 8 ans après, ils sont décédés. Et mon père, même pas 3 semaines après, a commencé à venir avec sa nouvelle copine. Et là... Il a joué le bonhomme, il a essayé de me lever la main plusieurs fois dessus. Et j'étais en âge de me défendre. Et jusqu'au jour où j'ai pris la carabine, je l'ai chargée. J'ai failli tirer sur mon père. Au dernier moment, j'ai dévié mon tir. Et là, il y a une voix qui m'a dit « Pars de chez toi parce que la prochaine... » Je vous aurais mis. Je suis parti de chez moi 15 ans et demi.
Alors là, t'es parti où ?
Dans la rue.
Dans la rue à 15 ans et demi ?
Ouais, ouais, ouais. C'est un clochard qui m'a pris sous un aile que je connaissais. À chaque fois que j'allais faire des courses, je lui laissais de la monnaie. Et quand il a appris que maman était morte, il m'a pris sous son aile. Et il m'a appris toutes les ficelles de la rue, quoi. Et je me suis débrouillé grâce à lui. J'y dois beaucoup.
Il s'appelle comment ?
Il s'appelait René Boulala, de Lunéville.
Et il est parti.
Il est décédé. Ouais.
On pense à lui, alors.
Ouais. Chouette type, sérieux.
T'as vécu longtemps dans la rue ?
De 15 ans jusqu'à mes 18 ans, après je suis parti à l'armée.
Ça fait pas partie des dates importantes dans ta vie ici ? Non.
Non, l'armée, non, parce que j'ai été plutôt déserteur que ce que j'ai demandé.
Pourquoi c'était trop dur pour toi ?
Trop facile. Mes baskets, je les ai rendues toutes neuves. Sport de combat, c'était ping-pong. Et pourtant, j'ai demandé un truc qui déboîte, toi. Et ils m'ont mis dans l'armée de l'air.
Ouais, c'est pas pareil.
Non.
Alors, j'espère que le commandant de la base aérienne d'Auchet n'écoute pas cette fois-ci, parce que c'était mon invité il y a 3 semaines. Voilà.
Base 132, Mayenne. Ah,
c'était 133, lui. Stéphane, on fait une petite pause, là ? On va revenir à Laurent. Laurent,
oui.
Une première date importante dans ta vie, toi ?
1988, le décès de ma grand-mère.
Ouais, pourquoi ?
T'avais
quel âge ?
Elle avait...
Toi, tu avais quel âge ?
Ah, moi, j'avais 18 ans.
D'accord. Ah, 8 ans.
Oui. C'est une personne qui comptait beaucoup pour moi, qui a été un peu une deuxième mère. Elle m'a donné le goût pour la lecture, la passion de la littérature. Pardon, la passion de la littérature, le goût pour la lecture. J'allais en vacances chez elle et elle me donnait des livres à lire, souvent. Donc,
vous partagez les lectures ?
On partageait les lectures, oui. Elle lisait beaucoup de policiers. Elle me faisait lire beaucoup de policiers. Elle m'a fait lire beaucoup de livres. Ensemble, on lisait. On allait en grande rue chercher les livres d'occasion. Elle m'achetait des bandes dessinées. Elle m'achetait des policiers, de la science-fiction, un peu de tout.
C'est une femme qui a compté pour toi par la culture, par...
Oui, puis aussi parce que je vivais des moments difficiles, j'ai pas connu mon père, qui était portugais, et j'ai été élevé par un beau-père qui était un peu violent avec moi, qui buvait beaucoup et qui tapait sur ma mère, qui me tapait dessus. Et c'était des échappatoires, un échappatoire à chaque fois que j'allais en vacances chez elle. Ça me permettait de changer un peu d'atmosphère, de changer de lieu.
Et elle habitait où ? Elle habitait dans...
Elle habitait...
Sur Nancy ?
Sur Nancy, oui. Rue de la Bérégoire, à Nancy, en face de l'hôpital central.
Donc, cette mamie, c'était un lieu
Un lieu de paix, oui. Oui, un lieu de paix, oui.
Tu en as retrouvé des lieux de paix ?
Ou pas comme ça, non. Pas comme chez elle. C'était vraiment exceptionnel, quoi. D'ailleurs, quand elle est décédée, j'ai beaucoup pleuré. C'était un manque affectif assez important. J'ai jamais retrouvé ces moments de grâce.
Pourquoi c'était de la grâce ?
Parce qu'elle était bonne. C'était une bonne personne. Elle était bonne avec moi. Pas comme mes parents, quoi. C'était autre chose. Elle était bonne, elle était gentille. Elle me chouchoutait, quoi. Tandis que quand je vivais en caravane avec mes beaux-parents, c'était plutôt de la violence, quoi, que je recevais.
Parce que tu étais en caravane avec ton
avec
beau-père
mon beau-père et ma mère. Oui, mon beau-père travaillait chez Nordon et faisait des déplacements. Il a fait des déplacements en Pologne, en Tchécoslovaquie, un peu partout en France. Et donc nous, on les suivait en caravane.
Ah, d'accord.
Voilà, et on a fait ça pendant une dizaine d'années.
Et ça s'est arrêté parce que...
Bah, ils ont acheté une maison à Tomblaine, ouais, dans les Promogym, et ils ont décidé d'être sédentaires
de
par la suite.
Sédentariser.
Voilà, sédentariser.
Donc toi, ça explique un peu ce goût de la caravane, ce goût.
Oui,
de...
j'ai retrouvé, oui, un lieu que je connaissais bien. Voilà.
Et le fait, tout à l'heure, tu disais, bah, la responsabilité, mais c'est aussi, c'est la sédentarité aussi un petit peu. C'est le fait de pouvoir bouger, c'est un goût de liberté, ça.
Oui, il y a un goût de liberté dans ce choix, bien sûr. Oui, un goût de liberté, puis d'éviter les responsabilités liées à tout ce qui est appartement. Voilà.
Pourtant, les responsabilités, tu les fuis pas si je prends une date importante dans ta vie, c'est en 2007.
Oui. Oui, la naissance de ma fille, bah, là, c'est un cadeau du ciel, c'est que du bonheur, quoi. C'est quelque chose que je voulais et que j'ai eu, quoi, par chance. Parce que j'ai rencontré la bonne personne et je suis tout de suite bien entendu avec elle, donc ça s'est bien passé.
Et donc la maman de ta fille ?
La maman de ma fille, exactement, qui était infirmière. Moi, j'ai eu des problèmes psychiatriques. Je suis allé en enfermement pendant un moment et je l'ai rencontré là-bas. On s'est rencontré là-bas. J'étais patient, elle était infirmière. Voilà, un peu. Et on
s'est aimé.
Voilà.
Et là, tu as retrouvé un peu de tendresse, là, tu évoquais tout à l'heure, le fait d'avoir un lieu de paix, un lieu de...
Oui, c'est vrai que quand je vis chez elle, j'ai ma fille et puis mon ex-femme, c'est des bons moments. J'ai eu que des bons moments avec. Mais j'ai du mal encore à correspondre avec ma fille, c'est un peu difficile. Ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vue. À un moment donné, elle a plus voulu me voir. Et là,
pourquoi ?
Je ne sais pas, c'était son choix. Mmh. Elle avait décidé de ne plus me voir. J'ai accepté ce choix et 4 ans après, elle a voulu me revoir. Et là, donc, je la vois depuis pas très longtemps, depuis 2-3 mois. Je la vois tous les samedis. C'est encore un peu difficile, la relation, mais ça se fait petit à petit avec le temps.
C'est difficile aussi pour toi ?
C'est un peu difficile aussi pour moi, oui. J'ai un peu de mal à renouer contact avec ma fille.
Pourquoi ?
Je sais pas, je suis comme ça, j'ai du mal avec les émotions, ça m'est difficile. Mais c'est petit à petit, ça me viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps.
Tu sens que tu as confiance ?
Oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est ma fille, c'est ma chair.
Tu me l'as dit tout de suite, hein. Le premier mot que tu as prononcé, c'était mon cadeau.
Ah oui, un cadeau
le
du ciel.
Le plus beau cadeau du ciel,
ah,
voilà,
Le plus beau des cadeaux, oui, bien sûr. Quoi. C'était magnifique, c'était un moment incroyable que dans ma vie. Quoi. C'était l'un des seuls moments vraiment agréables que j'ai ressenti.
Avec la mamie ?
Avec ma mamie, oui.
Il y a un lien avec le choix musical, comme tous mes invités, vous avez choisi un morceau. Il y a un lien avec le choix de Georges Brassens ?
Bah, c'est un peu ma philosophie, c'est un peu ma façon d'être dans la vie. Quoi. Je fais un peu ce que je veux, donc ça ne plaît pas toujours. Quoi. Donc, oui.
On se l'écoute.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur cou, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Georges Brassens avec La mauvaise réputation.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Explication de texte, Laurent.
Bah, j'ai toujours été différent. Quand j'étais jeune, j'allais dans les écoles, j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais toujours seul.
Ah ouais?
Oui, j'étais comme je vivais en caravane, je changeais beaucoup d'école, de lieu de scolarité.
Oui.
Merci. Et j'avais du mal à me faire des amis, donc j'étais souvent seul. J'avais pas beaucoup d'amis, j'étais pas très.
Parce la littérature était un refuge ?
Un refuge, beaucoup, ouais. Ça a été beaucoup un refuge dans ma vie, oui. Mais oui.
Ça peut faire des grands écrivains. Tu t'y prêtes un petit peu, l'écriture ?
Oui, j'écris de la poésie, oui. J'écris...
Tout le monde dit oui autour.
Oui, bah oui, j'écris, oui. Respect. Oui, j'écris, oui.
Respect, tu dis, Stéphane ? Près du micro, tu le dis. Ouais, c'est bien. Pourquoi ?
Pourquoi parce que je pourrais pas écrire comme il écrit.
Chacun son écriture.
Stéphane, toi, t'es aussi mauvaise réputation, toi?
Mauvaise.
T'aimes marcher tout seul?
Ouais, la vie m'a appris que. Comme ça. Bah, des fois, j'étais obligé de faire des bêtises. Et au début, je les faisais à plusieurs.
Bon, tu peux nous expliquer parce que, pourquoi tu es obligé de faire des bêtises?
Bah, parce que quand on se retrouve à la rue à 15 ans, ouais. On n'a pas de sous. La manche, je pouvais pas parce que moi, pour moi, mon apparence, elle comptait beaucoup. Mmh. Même dehors, j'étais toujours bien habillé. Mmh. Et je me voyais mal habillé bien, avec une casquette et faire la manche. Et ça, j'ai jamais pu. Donc, je me suis tourné dans les bêtises, quoi.
Ce qui a valu que tu aies eu des condamnations, que tu as fait un peu de prison, ce que tu nous disais tout à l'heure. Mmh. C'est ça? Mmh. Merci d'avoir expliqué l'origine. Quand je t'ai demandé le pourquoi.
De nada.
Dans les dates importantes dans ta vie, Stéphane, il y a aussi des naissances.
Oui.
Même clin d'œil que Laurent.
Et je me suis trompé, c'est le 8 janvier 2000.
On va pas... Ah, parce que tu m'avais dit 1er janvier.
Ouais, ouais.
1er janvier, waouh, 8 janvier 2000.
Oui.
Elle s'appelle Charlène.
Charline.
Hop là. Alors, elle est arrivée. Et pourquoi ça a changé ta vie? Et pourquoi ça fait partie
C'est un bonheur d'avoir un petit bout qui me ressemble, qui a le même caractère que moi. C'est un mini-moi. J'ai déjà vu en colère. C'est moi en fille, quoi. C'est comme je dis, il y en a qui comprennent pas, mais quand je lui écris un texto, je fais comment que c'est ma race. Il y en a qui comprennent pas, mais si, c'est ma race, c'est la chair de ma chair, c'est ma race.
Effectivement, merci de l'avoir expliqué. Ça me serait pas venu naturellement. Elle répond quoi? On ne veut pas tout savoir, hein.
Elle répond pas.
Elle répond quoi, elle, quand elle dit, quand tu lui...
Ah bah non, elle le sait. Elle le sait que je suis sa race. Elle ne dit rien. Elle a l'habitude.
Je peux poser une question indiscrète, puis tu me dis...
Non.
Non, je peux pas.
Non, vas-y, je rigole.
Quand on est abandonné, comme tu l'as été, tu l'as dit, ça fait quoi d'être papa? Ça fait quoi d'être... de donner la vie, de donner une naissance? Est-ce que ça n'interroge pas son soi un peu, son histoire, son parcours?
Ce qui m'a embêté le plus...
Et tu réponds pas si tu veux pas répondre.
Ce qui m'a embêté le plus pour moi, d'être papa, c'est fierté. Mais ce qui m'a fait le plus de mal, c'est qu'elle ait pas connu ses grands-parents. C'est ça qui m'a fait le plus de mal. C'est pour moi et pour elle. Parce que je sais que ma maman d'adoption, déjà pour comment qu'elle me traitait, j'étais son petit préféré. Alors elle aurait été grand-mère, elle l'aurait pourri gâté. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme ça.
Bon, Charlène, elle est grande aujourd'hui?
Ouais, elle a...
Charline, pardon, décidément. Charline, elle est grande aujourd'hui?
23.
Elle est dans le secteur, tu la vois toujours?
Ouais, elle est à Lunéville.
Ah.
Elle travaille avec les gamins. Pourtant, c'était mal parti. Mais...
Une deuxième date importante dans ta vie? Une troisième date, plus exactement, parce qu'on a déjà donné...
Troisième, j'avais mis quoi? Bah, Oran.
Ah oui, voilà. Oran. 11 mars 2014.
Voilà. Ma deuxième fille. Je voulais un garçon, mais je ne sais pas les faire. Que des filles. Mais après, elle, c'est un peu compliqué, puisqu'on s'est séparés à 2 ans.
Alors, attends.
On s'est séparés à 2 ans. Et...
Avec sa maman?
Ouais. Et bah, elle a raconté des trucs qu'on ne dit pas à un enfant, même si j'ai fait des conneries. Mes conneries, je les ai assumées. Je les ai payées largement à la société. Donc, après, comme j'ai dit, à 18 ans, si elle veut apprendre à me connaître, je serai là.
Pour le moment, elle ne fait pas signe?
Non. Non, mais sa mère, elle doit... Voilà, elle,
d'accord.
Elle lui montre le mou.
Donc là, tu attends que les vents soient favorables.
Ouais.
Là, du coup, toi, tu t'occupes de toi maintenant un peu pour continuer d'avancer?
Oui, heureusement. Heureusement.
C'est dur?
Non. On est beaux gosses comme moi, c'est pas dur. Non, je rigole. Non. Déjà... Il faut s'occuper de soi-même. Si on veut plaire aux gens, il faut s'occuper de soi-même.
C'est quoi tes priorités, alors? Qu'est-ce qui te ferait plaisir?
Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Obtenir le permis.
Plaisir, hein, j'ai dit. C'est bien ça, obtenir le permis. Pourquoi?
Le permis, c'est liberté. Je monterai dans la voiture avec la toile de tente et j'irai n'importe où et... Toile de tente, le chien.
Ah, il y a un chien dans ta vie aussi?
Ben non, mais le jour où j'aurai la voiture, j'aurai un chien.
Tous les deux, vous avez un petit point commun, c'est quand même l'envie de bouger, être sédentaire, c'est pas forcément votre... C'est parce que vous avez vécu dans la rue tous les deux? Alors si tu réponds Stéphane, tu répondras après du micro, hein, tout à l'heure, mais on va donner la parole à Laurent.
Bah, moi étant jeune, j'ai vécu en caravane, comme je vous ai dit, m'a donné le goût de la liberté, le goût des voyages. Ouais. J'ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse.
Et ça t'apporte de la lumière dans les yeux quand tu en parles.
Ah bon,
ça, j'espère que ça s'entend à la radio aussi. Au cas où ça ne s'entende pas, je le dis.
Voilà. Oui, bah, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Bon, c'était mon cas et ça m'est resté gravé dans ma mémoire.
Du coup, t'as beaucoup voyagé ?
Bah oui, comme je vous ai dit, j'ai voyagé en Pologne.
On se tutoie. Ou on se voit, mais on se tutoie.
Comme je t'ai dit, j'ai voyagé en Pologne, en Tchécoslovaquie, à Marseille, ouais. Le Havre, Saint-Étienne, j'ai fait toute la France. J'ai beaucoup voyagé étant jeune, de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, 14
ans. Donc ça,
ans.
C'était avec la famille.
Avec la famille,
avec
oui.
Avec ton beau-père et ta maman.
Voilà, oui.
Mais toi, tout seul ?
Je suis parti à Bordeaux 5 ans. Je suis parti à Bordeaux avec une amie pendant 5 ans. J'ai vécu là-bas. Et c'était très bien. C'était un bon moment. J'ai travaillé là-bas chez Tati, j'ai travaillé dans un bureau de tabac, j'ai fait des petits pas de pub, j'ai fait des petits boulots alimentaires pour survivre. Et
ça te plaisait?
Ah, c'était très bien, oui. Mmh. C'était bien.
Et toi, Stéphane, le fait de pouvoir bouger, de pouvoir...
Moi, j'ai voyagé avec mes parents, mmh. Pareil, tous les vacances.
Ah ouais.
J'ai fait le tour de la France avec mes parents, caravane. En camping. Donc,
Le goût de la liberté.
Mmh.
Mmh. Avant de bouger, vous participez tous les deux, que ce soit pour le logement, pour le village des sans prétention, pardon, voilà. Vous participez tous les deux à un projet artistique.
Oui.
Alors, Laurent, t'en dis deux mots, Stéphane ?
C'est des photos avec Gabou, Daniel Gabou. Des photos artistiques, nous mettons en scène avec elle, avec des poses artistiques. Et c'est un rendu très très beau. Mmh. Et des belles photos, très belles photos, qui sont exposées au Musée des Beaux-Arts.
Ouais, c'est pas mal.
Au mois d'octobre.
En noir et blanc. En noir et blanc, merci Michel.
Alors c'est là que Michel arrive. Bonjour Michel.
Un bout d'impatience.
Ah,
bonjour André.
À mon aide. à mon secours.
On prenait le temps d'aller à la rencontre de l'autre côté de la table parce qu'on voulait faire la rencontre de Stéphane et Laurent. Michel, tu accompagnes Gabou dans ce projet artistique justement ?
Oui, depuis presque 2 ans maintenant. Ouais, ça passait très vite. Daniel, qui est une amie à moi, qui est donc chorégraphe, metteuse en scène, comédienne, qui a mené de nombreux projets artistiques dans la région et en France et même à l'étranger. Et donc, elle m'a demandé, c'est une amie de longue date à moi, elle m'a demandé de participer au projet en tant que bénévole. Avec deux autres bénévoles du quartier, comment on appelle, le comité de trois maisons. Hein.
Derrière celle qui souffle les réponses, c'est Valérie Jurin. On va lui donner la parole dans quelques instants.
Oui, merci de m'aider. J'ai le trac aussi.
Allez, vas-y Michel.
Et donc, j'ai accepté tout de suite parce que je la connais bien et puis que bon, le projet artistique...
Alors c'est quoi ce projet artistique ?
Et bien donc, comme ils l'ont dit, l'a dit Laurent, c'était des photos qui ont été faites par une professionnelle, Emmanuelle Henry. Et le projet, c'est qu'elles vont être exposées au Musée des Beaux-Arts à Nancy.
En octobre ?
Fin octobre, hein, c'est ça, oui. Et ce ne sera pas sous la forme de photos, ce sera un montage vidéo, on peut dire. Mmh. Oui. Avec d'autres... des artistes aussi en même temps, c'est une expo photo avec d'autres aussi. Et il y a aussi le côté écriture. Laurent et Stéphane ont écrit. Et Manu aussi, un autre habitant du village. Et donc ce sera un mix de textes en audio. Avec la vidéo des photos, voilà.
Mais ça a été remixé par Poète.
Oui, il y a aussi...
Et il a remis, nous, on lit notre texte, et Poète, il a mis du son derrière. Et franchement, ça
c'est
donne...
C'est qui, Poète ?
C'est un musicien...
C'est un musicien professionnel aussi.
Musicien professionnel. Ah, et il a mixé nos textes, et franchement, ça donne respect.
C'est vos textes à vous ou
ouais,
c'est...
Ouais, ouais,
même toi, Stéphane ?
Ouais.
Bah alors, t'es capable d'écrire ?
Ouais, mais pas comme Laurent. Moi, j'ai mon langage et mon...
Ta race. Par exemple.
Par exemple.
Et Laurent ?
Bon, moi, c'est essentiellement de la poésie. J'écris beaucoup de poésie. J'ai un carnet de poésie
dans
lequel, oui, dans lequel j'écris de la poésie. D'ailleurs, je vais souvent... tous les premiers mercredis du mois, je vais au bar Le Royal. Je ne sais pas si...
Ouais, bien sûr.
Faire du slam. Voilà. Parler de la poésie devant des gens.
Je rêve d'une émission là-dessus. en permanence, hein, pas une fois une émission, c'est une émission régulière.
J'aurais bien amené mon carnet de poésie.
Ouais, c'est bien, mais garde l'idée en tête.
D'accord.
Laurent, hein, voilà, voilà. Et une émission de slam 100% Nancy, c'est sur RCL.
Il y a des joyaux là-dedans. Hein.
Mais oui, il y a des vrais joyaux. Mais bien sûr qu'il y a des vrais joyaux. Mais ça, pas tant. Tu t'en sens capable, toi, Stéphane ?
Non, de monter sur scène et. Moi, c'est pas du slam, c'est raconter ma vie. Mmh. Et non, je pourrais pas faire devant tout le monde faire du slam comme ça.
On se fait une petite pause musicale avec le titre que tu as choisi. Tu nous l'expliques un tout petit peu, Fauve. Enfin, c'est Voyou, le titre.
Voyou.
Pourquoi ce titre ?
Ça me correspond.
Toi, cache-toi, je t'ai dit qu'est-ce qu'il te faut de plus, t'en as pas vu assez. Et arrête de me regarder comme ça, t'as rien écouté, t'as rien compris. Comment je dois te le dire pour que ça imprime? Écoute, pauvre conne, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas une belle personne. Je suis une sale bête, une bouteille de gaz dans une cheminée. Et je vais finir par te sauter au visage si tu t'approches trop, comme ça a fait avec les autres. Mais tu sais pas de quoi tu parles, j'ai essayé, ça sert à rien, on change pas, on change jamais. Et quand bien même de toute façon ici y a pas de deuxième chance, on efface pas les ardoises. Me dis pas que t'es pas au courant, t'as pas vu, c'est imprimé partout, dans les journaux, sur les écrans, dans le regard des gens. C'est même écrit en grand sur les immeubles, la nuit, quand les gens bien comme toi sont endormis. C'est marqué en rouge, tu nais comme ça, tu vis comme ça, tu cannes comme ça. C'est la poêle face à ton flair avec ton dégoût de toi-même, ta culpabilité et ton désespoir comme seul témoin. Non, crois-moi, tu veux vraiment pas que j'aille plus loin, parce qu'au mieux ça t'empêchera de dormir. Au pire, ça te donnera envie de me cracher à la gueule. Alors avant que je me transforme encore une fois, pars en courant. Suis-moi comme le choléra. Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne, mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment, suffisamment pour y penser tout le temps. Je pourrais te donner 1 million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on me cloue au pilori. Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas, je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui. Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris que je passe mes nuits entre cacheton et insomnie. Et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti repenti. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Pardon, que je parle un peu moins fort. Ah, on vous dérange, en fait, merde. Et bah si on te dérange, tu te casses ou sinon tu fermes ta gueule, tu regardes ton assiette et tu nous fous la paix 5 minutes le temps que je termine. Tu peux faire ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te gêne qu'on te coince comme ça devant tout le monde? Bah ouais, c'est chiant, je comprends mon gars. Mais dis-toi que t'as de la chance, toi. Toi t'es né bien comme il faut, t'es solide, t'es cohérent, tu mets personne mal à l'aise dans les restaurants. Tu dors bien sur tes deux oreilles, t'es un bon petit français, t'es beau, t'es bien. Comme un magazine de déco, comme une maison, t'es moi. Ça t'arrive pas ces choses-là, hein. Tu vois absolument pas de quoi je parle. Et bah ouvre pas trop la porte de ton placard, alors tu pourrais être surpris. Ça va te faire tout drôle le soir où les choses que tu pensais avoir enfouies. Il faut savoir qu'en fait, elles étaient là, juste là, planquées sous le tapis. Elles sortent une main, puis te plantent une seringue dans le pied avant de disparaître. Et alors là, ça te prend à la gorge, comme des odeurs d'ammoniac. Ça te colle des sueurs froides, t'as les dents qui claquent. Mais non, je me calme pas, il sait pas ce que c'est lui. Il sait pas ce que c'est que d'être un crevard, d'être mal foutu, d'être une crasse, un pantin. D'être le terrain où bien et mal s'affrontent. Il sait pas ce que c'est. Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne. Mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment. Suffisamment pour y penser tout le temps. Je pourrais te donner 1 million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on me cloue au pilori. Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas, je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui. Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris que je passe mes nuits entre cacheton et insomnie. Et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti repenti. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Comment est-ce que tu peux penser que tu tiens à moi si moi-même j'y tiens pas? Pourquoi tu dis que tu m'aimes alors que moi-même je me déteste? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu restes? Comment est-ce que tu peux penser que tu tiens à moi si moi-même j'y tiens pas? Pourquoi tu dis que tu m'aimes alors que moi-même je me déteste? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu restes? Non, pas ce soir. Pas ce soir, laisse-moi s'il te plaît. Non, je veux pas y aller, je veux pas rentrer, je veux pas dormir. Et surtout, non, je veux pas parler. Ce soir, je veux juste hurler. J'ai besoin d'ouvrir les vannes, tu comprends, de tout lâcher comme un puceau qui ment. De hurler mes mots pesants avec ma voix d'adolescent qui a jamais mué. hurler ma peur de l'abandon, ma recherche phonétique d'attention, mon besoin de reconnaissance en permanence comme un chien des caresses, mes tentatives désespérées de me faire passer pour un mec que je suis pas et que je serai probablement jamais, de hurler mon absence de courage, ma cruauté, ma politesse maladive, mon optimisme débile, mon zèle dangereux, mes réflexes à la con, mes accès de colère, ma culpabilité bidon, ma sexualité en vrac et mes fantasmes tordus, de hurler ma peur panique des autres, ma mesquinerie sournoise, mes regrets, mes erreurs, mes névroses, mes obsessions, mes méta-obsessions, ma phobie de la douleur, de la perte, du suicide, de la dépression.
Tête de déporté, dans ma bouche comme un goût de sang et des murs sales autour de moi, j'ai l'impression d'être en HP, je me fais cogner par mes ma santé mentale me fait des doigts, il faut que je sorte des dégrisements, que je récupère ma vie d'avant, mais à quoi bon prendre un ticket, c'est bon de faire croncer par des connards sans âme et sans valeur, à quoi bon se forcer à tricher. J'appréhende le encore toi de ma mère et le regard effrayé de mon frère. Y'aura personne pour m'épauler, à part le sourire de l'épicier, lui acheter 2-3 bières avant de passer la nuit dehors avec un rage et remords. Et t'inquiète pas, je perds pas une mort. Même si l'autre dit partout que je vaux pas mieux qu'un voyou, elle a ressorti les vieux dossiers, rien à foutre que je répète qu'elle sait pas tout. Je te parle pas de ceux qui font pas mieux, ceux pour qui ça fait longtemps que mon nom est devenu tabou. Et quand je suis là, ils font semblant, alors qu'en vrai, ils rêveraient de me tordre le cou. Faut dire que les mensonges ont pas arrangé le coup. Les langues de pute, on en fait tout autant. C'est jamais tout le temps noir ni tout le temps blanc. Malgré ça, même si je suis dépassé, que je dors plus. J'essaie de tirer de nouveaux plans, de quoi me refaire, reprendre de l'air, de l'attitude, trouver une fille, bien et sortir de ma brume. Peu importe ce que tu m'opposes, je ferai mes armes tout seul, je veux qu'on me parle bien et qu'on m'estime pour ce que je suis. Éviter à tout prix ce modèle de défaite qu'on m'a prescrit, car quoi de pire que ce putain de trio. Mais trop boulot dodo, quand t'as déjà pensé à la fin, mais t'acceptes pas de voir le monde tourner sans toi. Même si parfois tu sais très bien que t'en es pas très loin. Y'a pas de saint ici, pas non, juste des mecs comme toi et moi qui veulent tromper le tout puissant sous des apparences de fort rien, vraiment pas séduisant. On fait quoi? On crame chaque jour comme des condamnés, parce qu'on a tous peur du jugement dernier.
Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne, mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment. Suffisamment pour y penser tout le temps.
Je pourrais te donner un million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on me cloue au pilori.
Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas, je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui.
Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris que je passe mes nuits entre cacheton et insomnie.
Et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti et repenti, tant pis, si ça me prend toute une vie.
C'était la première fois dans une émission d'I Feel Good qu'on avait une chanson de 6 minutes. C'était Fauve avec Voyou.
I feel good. I feel good sur RCN. Christophe Chevardet.
Surtout avec Stéphane et Laurent, avec Michel et bientôt Valérie. C'est pas la même poésie que Georges Brassens, Fauve.
Non,
hein,
non, non.
Pas pareil.
Mais qu'est-ce que ça parle?
Ah oui, oui, oui. Bon,
j'avais
oui,
un peu l'impression de t'entendre.
Oui.
C'était un peu toi.
Oui, t'as copié.
Beaucoup de violence dans les propos. Mm-mm. Beaucoup de violence dans la narration des faits.
Mm-mm. De toute façon, la rue, c'est... La rue, c'est... À moitié, c'est la violence. Hein.
Mais où est-ce que tu trouves un peu de... Parce qu'on en a tous besoin, je crois. Mm-hmm. Où est-ce que tu trouves un peu de paix, de tranquillité, de sérénité? On en parlait tout à l'heure.
Dans un sac de boxe. Où je mets mes gants et je tape dans mon mur. Mur plein. Pas du placo. Mais c'est comme ça que je m'évade. Après, plusieurs fois, on m'a dit d'aller voir un psy, mais je me vois pas lui raconter ma vie, je connais pas, machin, pas lui raconter ma vie.
Ah, pourtant, si j'écoute bien ce que dit Fauve, il y a un moment, faut quand même parler de soi. Et là, tu dis aussi, c'est la même chose. Et là,
c'est pas faux.
Et toi, tu dis, je veux parler de moi dans la poésie.
Mm-mm. Mais il faut que je trouve le bon psy.
Ou le bon lieu pour parler de toi.
L'écriture, ouais, c'est un exutoire aussi.
Ouais, bah c'est pour ça que j'ai
t'as écrit une biographie, autobiographique. Ouais.
T'as écrit ton autobiographie?
Ouais, il a écrit.
C'est lui. Quelque chose qu'on pourra voir.
Impeccable. Ouais.
En octobre, c'est ça?
Ouais.
Ah, on a rendez-vous au Musée des Beaux-Arts.
Et oui.
Ça te plaît bien aussi, Laurent, qui commande derrière. Hein.
Oui, oui.
Ce projet, il te plaît bien.
Oui, bah oui, le fait d'écrire, moi, ça me plaît bien.
Surtout qu'on est tous les deux les plus...
Prolixes.
Prolix, enfin, on écrit beaucoup.
Un
quoi.
Mot que je connais.
Vous vous écrivez
beaucoup,
pas mal.
On écrit beaucoup.
En quantité ouais, et en qualité.
Dire, c'est nous deux qui s'investissons le plus.
Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais, bravo. C'est exactement ça. Ouais.
Valérie Jurin, bonjour.
Bonjour Christophe.
Vous êtes autour de la table parce que derrière ce village de non, sans prétention, je cherchais le nouveau nom justement, ce nouveau village de sans prétention, il y a une association que vous présidez. Alors quelle est l'association et pourquoi un projet artistique et culturel, même si Stéphane et Laurent viennent de nous en donner les motifs et les motivations et les bonnes raisons.
Oui, alors l'association Ars, je pense qu'il y a beaucoup de Nancéens qui la connaissent, elle est née dans les années 80, et le public auquel elle destine son action, c'est principalement, historiquement, le public à la rue. On a une certaine tradition, on va dire, d'accueil et d'accompagnement des personnes qui vivent dans l'espace public, vivent dans la rue. On s'est rendu compte que ce qu'on proposait ne correspondait plus forcément voilà, à la réalité du terrain. Dans les années, on va dire, 2000-2015. Et en 2018, on a lancé une grande étude sur l'errance urbaine, qui a été menée par un sociologue qui s'appelle Thibaut Bezosi, et qui nous a rendu des grandes préconisations. Et il y avait deux grandes préconisations qui étaient se lancer dans le logement d'abord. Donc Stéphane on a bien parlé, hein. Donc on évalue un certain nombre de personnes, on estime qu'elles sont en capacité de prendre un logement, on les accompagne, mais on les met directement dans le logement et on va les accompagner dans le logement. Et puis le deuxième dispositif qu'on avait, qui nous était recommandé, c'était de créer un village de l'insertion. Donc c'était un projet expérimental qui va bientôt se finir sur la première phase de 3 ans d'expérimentation. On avait un site qui nous était prêté par un bail emphytéotique par la métropole, qui était sur la rue du Crône, un grand hangar, où on faisait des chantiers d'insertion. On a déménagé nos chantiers d'insertion, on les a mis sur Audemont, et puis on a investi donc ce lieu, grand hangar, on y a mis des algéco, on y a mis des caravanes, et on a créé d'une certaine manière un échelon supplémentaire pour permettre donc aux personnes qui connaissent la rue, qui ont des difficultés spécifiques d'accès au logement, de se stabiliser. Ce qu'on appelle déjà, il y a une grande étape, on se stabilise.
Oui,
ouais. Mmh. Hein,
tu l'as ressenti comme ça, toi,
Laurent? Oui, un lieu où on est plus, il y a beaucoup de sécurité par rapport à la rue, quoi, où on vit dans les parkings, dans les squats, où on est sujet à la violence, et beaucoup de personnes, quoi, la violence et au problème qui est lié à la rue, quoi.
Toi, Stéphane, aussi, tu te sens plus en sécurité dans cette formule, dans cette solution de logement,
ouais. Ah, même dans la rue, moi, je dormais dans des maisons abandonnées.
Mais tu parlais près du micro.
Je dormais dans des maisons abandonnées,
ouais.
Et je dormais tranquille.
Ah ouais.
J'avais toujours mon morceau de bout de bois à côté, le premier qui venait me réveiller.
Il dormait avant toi.
Ouais, ouais.
Et donc, première étape, donc la stabilisation. La deuxième chose qui est importante dans ce lieu, c'est que les habitants, ils sont chez eux. C'est pour ça qu'ils ont donné un nom à ce lieu. Ils ont des règles de vie. Il y a des travailleurs sociaux. Il y a des professionnels autres qui passent. C'est ouvert. Mais les habitants sont chez eux, hein, déjà. Nous, on a bien sûr des exigences, bien sûr, puisqu'on est responsable du site, mais on va dire un bas seuil d'exigences. Et puis après, il y a l'accompagnement médico-psychologique aussi, et puis il y a l'idée que les personnes construisent leur parcours. Hein, voilà, tranquillement. On a 3 ans, on y va tranquille, mais en tout cas, on se reconstruit. Mais ce qui est très important, c'est la grande phase de stabilisation, de se dire il y a autre chose qui est possible que la rue. Après,
sans passer par une étape de foyer ou de choses
voilà,
comme ça.
Voilà, c'est ça. Ouais. Ça ne convenait plus. Il fallait une étape intermédiaire. Donc ça, C'est une expérimentation qu'on a ouvert en 2022. Il devait y avoir une quinzaine de villages de l'insertion en France. Maintenant, on dépasse la cinquantaine, soixantaine. On a même une association des villages de l'insertion. Parce que c'est des beaux outils qui permettent d'avoir des résultats et d'accompagner des personnes vers un mieux-être, mieux vivre. Et puis, il y a eu l'expérience de ce projet artistique qui est arrivé un peu par hasard. Daniel, avec la compagnie Sans Sommeil, mais plein d'autres artistes, plein d'autres bénévoles, l'atelier de vie de quartier, etc. Bruno Ricci, par exemple, qui vous a fait...
Régis Gaël,
voilà. Enfin, vraiment un beau collectif d'artistes qui arrive.
Aussi la cuisine.
Ouais, la boîte à cuisine. L'arbre à livre. Enfin, voilà, on s'est ouvert à la culture. Mais pas comme un alibi ou je sais pas, quelque chose qui viendrait comme ça plaquer. Non, c'était vraiment l'idée que la culture, elle allait imprégner ce parcours, elle allait imprégner la vie des personnes et que ça allait leur servir à se, je dis le mot restaurer, hein, mais c'est vraiment, voilà, se stabiliser davantage et puis commencer à construire autre chose. Et moi, ce que je dois te dire, c'est ça fait quand même très très longtemps que je suis dans cette association et j'ai énormément appris. Parce que vous avez parlé, vous nous parlez, parce que vous témoignez, parce que vous êtes capable de nous raconter, vous êtes... quand je vous entends, ça me permet aussi de pouvoir expliquer à d'autres qui s'interrogent toujours sur ces personnes qui vivent à la rue, d'où elles viennent, quels peuvent être leurs parcours, etc. J'ai toujours vos paroles... pour moi, c'est vraiment une expérience humaine assez unique. Et non, mais je le dis pas parce que Christophe est là et que j'aime parler au micro. C'est vraiment une belle expérience, belle expérience humaine.
C'est l'occasion de rendre hommage à celui qui a créé l'ARS, Pierre Vivier. J'ai le souvenir d'enfant où il disait c'est des lieux où j'ai appris la vie. Et je crois c'est Pierre Vivier qui a créé l'ARS. Et j'en profite pour saluer. Ça date un petit peu,
dans les années 80,
tout début 80. Ouais. Mmh. Et c'est l'occasion aussi de saluer son épouse Marie-Claude Vivier. Voilà. Laurent, on a oublié de dire une date importante.
Oui.
Parce que je veux pas louper les dates importantes des invités. Et du coup, je reviens tout petit peu en arrière. Pardon, mais c'est bien. Une date importante dans ta vie. Elle peut être un peu surprenante, c'est 1991, c'est ton entrée dans l'armée.
Oui, je suis entré dans les paras en 91.
Comme ça, a priori, ça pourrait surprendre.
Bah oui, mais je voulais...
Parce qu'on est tous bourrés d'a priori, mais il faut apprendre la vie.
On m'a proposé les paras et je me suis dit, sauter en parachute, ça peut être une expérience intéressante. Et voilà, je suis parti en avant, j'étais la tête en avant, j'ai foncé. Et je me suis rendu compte que c'était pas évident de s'adapter au fonctionnement de l'armée, le lit au carré, les ordres, tout ça, c'était pas facile. Donc j'ai dû m'adapter. J'ai dû m'adapter à l'environnement. Et, voilà.
Et du coup, c'était réussi, c'était un apprentissage.
Oui, c'était réussi. J'ai fait une quinzaine de sauts, c'était très bien. les sauts en parachute, c'est génial, c'est terrible, terrible. Mmh. Super, super, super.
On vous donne tous les deux rendez-vous donc en octobre. Vous avez envie de rencontrer le public aussi ? Il viendra vous voir ?
Oui. Mm-hmm.
On peut compter sur vous pour faire la pub ? On fera de la pub à l'antenne, à la radio ?
Non, bah ouais.
Hein ? Ouais, on fait ça. Mm-hmm. Merci de votre participation.
Merci à toi.
Merci de votre beau témoignage.
Merci à vous.
De vie. C'était le but de I Feel Good. C'est de partager ce qui vous donne envie d'agir. Au fait, tous les deux, c'est quoi qui vous donne envie d'agir ?
Ma fille.
Le projet.
Ouais. Déjà pour moi de l'écriture, parce que c'est la première fois que ce que j'ai écrit et ce que j'ai lu, et c'est la première fois que des gens écoutaient ce que j'ai écrit. J'avais jamais dit ça à personne, j'avais toujours gardé ça en moi.
Et toi, Laurent ?
Moi, c'est ma fille. Moi, c'est un moment, c'est que du bonheur. C'est elle qui me pousse à agir, à faire des choses, à écrire, beaucoup de choses qui me font agir par rapport à ma fille.
Valérie, Michel, Stéphane, Laurent, mais je vais rajouter Pierre et Marie-Claude et je vais bien sûr rajouter Daniel à l'aventure et puis tous les artistes qui contribuent aussi à cette belle aventure. On se donne rendez-vous en octobre. Merci Thomas qui était à la technique.
I feel nice, like sugar and spice.